Bonne soirée. Et cours!
Wow! Le hockey vous manque? Envie d'avoir des nouvelles de la LNH? C'est prolongation. Tout ce qui touche le hockey, de près ou de loin. Avec Martin McGuire et Danny Dubé. Au 98.5.
À nouveau, la bienvenue à cette autre édition de l'émission Prolongation, édition du 14 novembre. Danny Dubé, Martin McGuire avec vous. On va bien sûr parler de hockey, c'est notre principale fonction à cette émission. Mais surtout, Danny, que je salue tout de suite, à qui je souhaite la bienvenue. Salut, Danny.
Je suis content que tu me dises qu'on va parler de hockey.
Danny, évidemment, le sujet numéro un, ce sera ce retour éventuel de la Ligue nationale aux activités. Presque régulière, à compter du 1er janvier. Au cours de la semaine qui vient de passer, il y a eu des rencontres entre les gouverneurs de la Ligue nationale, il y a eu des rencontres également avec l'Association des joueurs. L'Association des joueurs a travaillé pour tenter aussi d'en arriver à une entente de son côté. Il y a des choses un peu plus concrètes maintenant qu'on a sur la table et on va en jaser, notamment calendrier, refonte des divisions et des conférences. On commence à voir un peu plus clair là-dedans, on parlera des tenants et aboutissants de tout ça. Évidemment, Danny, il y a le côté des joueurs qui est très important parce qu'ils sont 50% de la patente. Surtout quand on laisse tomber la rondelle, ils deviennent 100% de l'histoire. Mais avant, et quand on parle de revenus, de dépenses, ils font partie de la solution ou du problème, mais probablement plus de la solution. On va jaser avec Antoine Roussel, qui a été très longtemps le représentant de l'Association des joueurs des Canucks de Vancouver, mais qui, pour la négociation actuelle, a laissé ça un petit peu de côté, a laissé sa place à un autre coéquipier. Antoine est quelqu'un qui a des opinions très précises et très bien observées sur la situation. Danny, tu sais que cette semaine, on a eu le plaisir de bavarder avec Stéphane Waite, l'entraîneur des gardiens du Canadien, et j'ai réservé quelques bons extraits parce que Stéphane Waite, lui, a vraiment le sentiment qu'il aura sous la main, probablement le meilleur duo de gardiens de la Ligue nationale, Danny. Quand on avait embauché Allen, c'était un peu ce qu'on croyait aussi d'ailleurs. Alors, on va en jaser, puis on va surtout entendre les propos de Stéphane Waite. Et Danny, d'ailleurs, je pense que tu vas revenir en commentaire éditorial aujourd'hui sur le développement des gardiens de but, c'est bien ça?
Exactement, et la charge qui incombe à ceux qui ont le développement entre les mains, et à quel point c'est très fragile un gardien de but, et il faut être très patient. Alors, je vais donner quelques exemples de gardiens qui aujourd'hui font partie de l'élite de la Ligue nationale et qui pourtant ont pris quand même un certain temps avant d'arriver à l'échéance.
La Ligue de hockey junior majeur du Québec ira dans une bulle entre le 17 et le 27 novembre prochain. Ça se passera au Centre Vidéotron à Québec et on en jasera avec Monsieur Hockey Junior au Réseau des Sports, mais aussi à notre antenne au Réseau Cogeco. Oui. Stéphane Leroux sera également notre invité. D'abord, Danny, on sait que vendredi, donc hier, le président propriétaire du Canadien, Jeff Molson, a rencontré le premier ministre Legault. Ils se sont rencontrés pour parler de la suite des choses, Danny. J'explique rapidement avant d'entendre ton commentaire là-dessus. C'est clair que si on veut commencer des activités dans la Ligue nationale le 1er janvier et que le Canadien veut y participer, bien sûr, ça va de soi, il faudra considérer qu'on ait un camp d'entraînement le 15 décembre. On sait que les autorités gouvernementales ont donné une permission spéciale à l'Impact de Montréal pour pouvoir s'entraîner à Montréal. Le Canadien a besoin aussi du même genre de dérogation, du même genre de permission pour pouvoir utiliser à huis clos son centre d'entraînement et tenir un camp d'entraînement. Mais aussi, il y a des enjeux importants, Danny, parce que si au cours de cette saison 2021, parce qu'on l'appelle 2020-2021, mais en réalité, ce sera la saison 2021, si au cours de la saison 2021, on veut être capable d'accueillir un petit peu de spectateurs au Centre Bell graduellement dans cette saison de hockey, là aussi, ça va prendre la collaboration des autorités gouvernementales québécoises.
Ouais, ça prend la collaboration, mais en même temps, il faut que ce soit bien inscrit dans les procédures qui sont en place avec la santé publique. Tu peux quand même pas faire de passe-droit. Je pense que on est tous très conscients de l'importance de cette entreprise-là au Québec, particulièrement à Montréal, mais en même temps, ben je pense que On est très sensible aussi à tous les sacrifices qui ont été faits dans le milieu des affaires depuis plusieurs mois. Donc, évidemment, d'un certain côté, je pense que les instances politiques, notre gouvernement est un petit peu à cheval sur une ligne, là, dans une situation quand même qui est très importante, très très difficile à trancher. Ouais. Puis moi, ce qui me donne espoir, c'est tous ces nouveaux tests sur lesquels on semble...
Technologie là, qu'on a maintenant, là, Danny.
Oui, qui semble donner des résultats très rapides. Je pense que ça, ce sera au cœur des discussions. Est-ce qu'on pourra utiliser ce type de test hyper rapide, là, où on a un résultat dans la minute, là? Est-ce que ce genre de test pourra être mis de l'avant pour permettre justement d'avoir des gens dans les gradins, peut-être pas à salle comble, mais...
Et peut-être pas au 1er janvier. Et peut-être pas au 1er janvier, là, on est d'accord avec ça aussi. Là.
Effectivement, mais tout ça, je pense, est au cœur des discussions. Ouais. Et donc, évidemment, ce sont des discussions qui ont pris place hier et qui ont probablement commencé avant
absolument.
Avant le vendredi 13.
c'est pas la première fois que M. Monson et M. Legault se parlent concernant ce dossier-là. Non, ils ont eu des discussions au printemps quand il a été question du retour au jeu et tout ça, parce qu'avant qu'on parle d'une bulle à Toronto et à Edmonton, il y avait eu des rencontres, mais il y a aussi des conversations précédant celle de vendredi après-midi entre le Canadien et les autorités gouvernementales. Puis de toute façon, Danny, c'est d'être un bon citoyen corporatif comme le Canadien, que d'aller s'asseoir avec le premier ministre. Peut-être même qu'Isabelle Charest aurait participé à ces rencontres, sait-on jamais. Mais c'est de bonne guerre que le Canadien tienne le gouvernement au courant de la démarche que la Ligue nationale est en train de faire.
Ben c'est sûr. Écoute, c'est super important d'être respectueux des instances qui sont en place. Puis de toute façon, ils sont comme tous les autres... Je veux pas dire des membres corporatifs là, mais
toutes les autres industries finalement.
C'est ça, comme ils sont comme tout le monde. Je veux dire, c'est les règles sont les mêmes pour tous, actuellement plus que jamais. Alors évidemment, c'est de bonne guerre de tenir tous ces gens là à l'intérieur des discussions de la Ligue au départ et voir le niveau de faisabilité, parce que bon, d'une province à l'autre, d'un État à l'autre, ouais, avec les États américains. Bon, on sait qu'il y a des variables, là, et je pense que c'est important d'être en constante communication pour être capable de justement de qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas de faux fuyants,
ben voilà,
qu'il y ait de la transparence.
C'est surtout ce qu'on veut éviter, Danny, parce que si on met des choses en marche, il y aura quand même des investissements importants derrière ces choses en marche, et on veut pas que ça vienne éclater comme une grenade sur laquelle tu marches puis que tu n'as pas vu venir. Mm-hmm. Ce que vous devez savoir, mesdames, messieurs, concernant le retour aux activités de la Ligue nationale prévue, en tout cas du moins souhaitée par les propriétaires et surtout M. Bettman pour le 1er janvier, sont les éléments suivants et surtout, parlons des éléments importants, Danny. D'abord, actuellement, selon les informations que nous avons, le plancher, et ça a déjà été confirmé par Gary Bettman, là, le plancher sera un plancher de 48 matchs. On ne veut pas entreprendre quoi que ce soit en bas de 48 matchs, et je pense que c'est tout à fait logique, Danny, parce que lors du dernier conflit de travail qui avait coûté une demi-saison, on avait joué 48 matchs parce qu'à l'époque, on disait en bas de ça, là, c'est difficile d'appeler ça une vraie saison de hockey. Et semble-t-il que le maximum, en tout cas selon les informations que j'ai obtenues au cours des dernières heures, on parlerait d'un maximum de 60 matchs, Danny. La raison est fort simple, c'est que si on veut donner une Coupe Stanley avant le début des Jeux olympiques d'été, qui sont prévus là, pour le 23 juillet 2021. Si on veut jouer une finale un peu avant, puis qu'on veut terminer peut-être au plus tard à la mi-juillet, c'est sûr qu'au-delà de 60 matchs, là, ça va forcer une gymnastique qui va peut-être être un peu trop compliquée. Et de toute façon, Danny, on doit avoir ce qu'on appelle en bon québécois un petit bumper d'une douzaine de jours peut-être au cas où on devrait annuler des matchs ou reporter des matchs.
Ouais, et c'est sûr que c'est pas un exercice qui est facile, puis dans les espèces de tu parles de la zone tampon.
Oui.
C'est très important.
Ben absolument. Et parce que bien évidemment, faut être réaliste, Danny, parce que ce genre d'exercice là, parce que ce qui est vraiment important de mentionner là, c'est que On a parlé des mini-bulles. Toute cette histoire des mini-bulles, ça avait été évoqué par M. Bettman au cours de la dernière semaine. Mm-hmm. Mais ça fait partie des choses qui transpirent des discussions que les gouverneurs ont eues ensemble et que l'association des joueurs a de son côté. Là. Les mini-bulles, Danny, ça marche pas. Il n'y a pas personne qui a l'air à vouloir de ça parce que ce soit des mini ou des grosses bulles, si vous prenez par exemple la bulle qu'on a créée à Toronto puis celle d'Edmonton pour les séries, là, ça aurait coûté entre 75 et 95 millions de dollars à la Ligue nationale de tenir cette fameuse bulle estivale. Alors, la première raison, Danny, là, elle est économique. Les propriétaires veulent jouer dans leurs arénas pour au moins aller chercher quelques revenus et limiter des dépenses.
Ouais, ben il y a, écoute, la, je pense qu'au départ là, les choses ont changé depuis environ un mois. Peut-être qu'au début c'était la seule option qui était sur la table viable, ouais. Celle des bulles. Là, à mesure que les choses avancent, on se rend compte que en 2021, à quelque part, on pourrait être capable d'intégrer lentement mais sûrement des gens dans le building, pas des à pleine capacité comme on disait tout à l'heure, mais avec tout ce qui est sur la table, avec tout ce ouais. qui s'en vient, les tests et tout ça. Donc, bon, parfait. Une fois que ça c'est réglé, après on se dit, est-ce que la fameuse bulle comme on la connaît, où on a trois ou quatre équipes dans une zone pendant X temps, après ça, ces gens-là retournent chez eux, puis on part une autre bulle à une autre place. Mais là, je veux dire, ce que ça dit en réalité, c'est que l'association des joueurs doit accepter que leurs joueurs vont être partis presque, ils vont chez eux 18 jours, mettons, dans un mois et demi. C'est un peu ça l'idée de la bulle. Là. Fait qu'à un moment donné, là, si tu prends quatre équipes, tu les fais jouer ensemble, ben, il y a une équipe qui est locale, évidemment, trois sur la route, puis tu reviens, il y en a une qui est locale, les trois autres sont encore sur la route, eux autres-là. Là. Fait qu'à un moment donné, ça devient complexe et ça devient très ardu pour les joueurs. Moi, je croyais pas beaucoup en cette alternative-là, mm-hmm. en me disant c'est la seule. Bon, ce sera le moins pire des scénarios. Mais actuellement, on est dans une autre dynamique et force est d'admettre que c'est probablement ce que tu parlais tout à l'heure avec les propriétaires qui veulent jouer dans leur building. Maintenant, ils vont peut-être jouer 3-4 matchs contre la même équipe quand c'est des équipes de l'Ouest, là, comme ben vas-y, prends la balle.
Non, mais ce que je voulais mentionner aussi, c'est que il est arrivé sur la table au cours des derniers jours, et ça, je fais une petite parenthèse, Danny, là. Quand tu parlais de cette fameuse bulle qui est de moins en moins possible, j'ai l'impression aussi que il y a des propriétaires de la Ligue nationale qui sont assis dans deux fauteuils, le fauteuil LNH et le fauteuil NBA. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des idées qui se sont promenées d'une ligue à l'autre parce que la NBA non plus ne semble pas avoir l'intention de privilégier des bulles à compter du 22 décembre. Il est grandement question pour que les clubs de la NBA jouent dans leurs propres édifices. Alors, je ferme la parenthèse NBA. Et l'élément que je voulais ajouter concernant les fameuses bulles et la décision des propriétaires, c'est que aussi, Danny, Jeff Molson nous l'a mentionné la semaine dernière, les possibilités de revenus, elles sont pas énormes. Il y a les revenus de télévision nationaux, les revenus de télévision locaux qui sont extrêmement importants quand tu joues dans ton propre édifice et des équipes riches qui ont de bons contrats de publicité et de support corporatif vont pouvoir aller chercher quelques piastres là-dedans. Et tout ce qu'on va être capable d'aller chercher, Danny, on va être capable de le chercher dans les édifices des 31 équipes de la Ligue nationale et non dans une bulle.
Ouais, puis tu sais, dans l'espèce de dynamique où on travaille avec l'association des joueurs, je pense que les propriétaires ont aussi un devoir de démontrer qu'ils veulent générer des revenus. Ils veulent être là, ils veulent jouer, ils veulent générer des revenus. Parce que, écoute, là, c'est quand même une situation qui est assez particulière, ce qu'on vit, là. On partage des revenus, mais on partage une décroissance avant tout.
Ça, c'est clair. Et on l'a vu dans le dernier marché des joueurs autonomes, Danny, où les chiffres ont chuté d'à peu près 50%. D'ailleurs, j'ai hâte d'entendre notre ami Antoine Roussel là-dessus. Ça va être intéressant de voir où les joueurs se situent. Mais la fameuse suggestion qui est venue aussi sur la table, elle est inspirée du baseball. Ça aussi, Danny, c'est une façon de maximiser un peu les coûts. C'est de faire en sorte que, à titre d'exemple, si le Canadien de Montréal se retrouvait dans cette fameuse division canadienne dont on va parler tantôt, parce que là aussi, il y a une couple de scénarios sur la table, là. Ben, tu peux y aller à Vancouver. Mais si, comme le baseball, tu vas à Vancouver pour jouer 3 matchs en 5 jours, ça vaut bien plus la peine puis ça coûte moins cher. Alors, quand tu auras passé à travers ton calendrier de entre 48 et 60 matchs, c'est là qu'il va avoir eu une différence importante au niveau des dépenses si tu vas t'installer dans une ville pour jouer au moins 3 matchs.
Non, c'est sûr que c'est côté efficacité, rentabilité, ça va. Maintenant, il faut s'assurer que tu sais où ça fonctionne cette affaire-là, Martin, là, rapidement, là, c'est que
oui.
Mettons que tu as le droit de mettre je sais pas moi 5000 personnes par match dans les gradins.
Oui.
OK, pour respecter les conditions mises en place par la santé publique. Ben, écoute, si tu as le Canadien 3 matchs, c'est comme de l'avoir un match pour faire une salle comble, là, ou presque.
Absolument.
Donc,
absolument.
Ça, c'est un avantage pour une organisation qui reçoit une autre équipe où il y a une bonne rivalité, où l'équipe qui visite est une équipe populaire comme le Canadien, et ce sera le cas. Écoute, dans le cas échéant, c'est sûr que c'est un scénario qui pourrait être viable dans un contexte comme celui qu'on vit.
Et puis pas seulement au Canada, là. Essayez d'imaginer si vous pouviez regrouper 3 matchs en 5 jours entre les Pingouins et les Flyers de Philadelphie, vous allez avoir un peu d'électricité dans l'air, là. C'est comme des séries. Alors ça, c'est intéressant. Puis ça contourne le fameux problème de la bulle, Danny, de la mini-bulle dans lequel les joueurs veulent pas aller. Parce que si tu t'en vas, je reprends mon exemple du Canadien qui s'en va à Vancouver, je trouve que c'est important de mettre des images dans la tête des gens. Si tu t'en vas à Vancouver pendant 5 jours puis que tu joues 3 matchs, puis tu calcules une journée de voyage là-dessus, ben au moins, Danny, tu peux contrôler, entre guillemets, les allées et venues des joueurs. C'est-à-dire que tu peux les installer dans un hôtel et tu peux la créer, l'espèce de bulles, hôtel, aréna, aréna, hôtel, et ça se fait pendant 5 jours, et à ce moment-là, il y a peut-être moins de chances que tu sois obligé d'annuler des matchs parce qu'il y a des joueurs qui ont attrapé la COVID aussi, là.
Non, c'est sûr, ça c'est un excellent point également.
Danny, il y a des enjeux financiers, puis avant d'entendre Antoine Roussel dans quelques instants, je veux qu'on parle de ça. Et là, j'ai pas l'intention de noyer les gens dans les dédales d'argent, mais je veux quand même expliquer très rapidement. Lors de la dernière signature de convention collective qui a permis le retour estival, là, il y avait déjà un 10% du salaire des joueurs qui avait été négocié pour être remis à l'année suivante. C'est-à-dire que c'est un 10% où on dit aux joueurs, messieurs, vous n'aurez pas ce 10%-là, vous serez payés l'an prochain sur 10%. Puis il y avait ensuite une escalade comme ça là qui se terminait jusqu'à la fin de la convention collective, la nouvelle convention qui a été signée. Si on combine...
Aussi, il y a eu aussi un 8% qui a été payé à la...
Déjà.
À la suite de l'acceptation de cette entente-là. C'est ça, hein?
Exactement. Oui, parce que en octobre, là, au tout début du mois d'octobre, les joueurs de la Ligue nationale, ceux qui étaient sur les listes de 23, lorsque les activités ont été suspendues au 12 mars dernier, là, ils ont reçu un 8% de leur salaire en avance. Ils ont reçu un premier chèque de paye, en quelque sorte. Alors, si on enlève les fameux 10%, Danny, qui ont été, excusez l'expression, pelletés par en avant dans les années suivantes de la convention collective. Si on enlève le 20% qui est déjà placé dans ce qu'on appelle l'escrow, là, le fameux
la provision
pour le maintien du plafond salarial, des séparations dépenses et revenus dans la Ligue nationale pour les joueurs, ben si on fait le total, là on arrive à peu près dans les eaux de 60 à 70%. Si on joue une 60aine de matchs, entre 50 et 60 matchs, ben on a déjà là des données qui nous permettent d'avoir l'idée de ce que sera l'entente financière entre les joueurs et les propriétaires.
Oui, c'est exactement ça. Et écoute, tu parles de normalement, les revenus, ça ressemble à quoi sur une saison complète, Martin? On parlait de 5 milliards à peu près?
5 milliards pour une saison de 82 matchs, là, c'est ce qu'on avait prédit ou prévu, là, parce que la dernière saison a été arrêtée, Danny, mais si on avait joué 82 matchs, là, on se dirigeait vers des revenus de 5 milliards.
Donc, on parle de 5 milliards sur une saison conventionnelle. Maintenant, on va jouer entre 48 et 60 matchs.
On va jouer une demi-saison à peu près.
Donc, une demi-saison, peut-être un peu plus, dans un contexte où il y aura très, très peu de revenus à la porte, là, donc les partisans, le nombre de partisans, etc. Donc, on peut voir l'inquiétude monter du côté de certains propriétaires qui se demandent comment ils vont faire pour faire leurs frais, là, pour arriver dans tout ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y en a en sourdine, là, c'est sûr qu'il y en a qui veulent pas jouer, là, parce que le plus gros de tes dépenses, c'est tes salaires de joueurs.
Il serait environ 5 propriétaires, Danny, puis même le New York Times disait vendredi hier là qu'il y a certains d'entre eux qui ont évoqué la faillite, c'est-à-dire que s'ils sont obligés de jouer au 1er janvier, ils pourraient devoir déclarer faillite. C'est la nouvelle du New York Times là, qui est parue vendredi. C'est quand même important là.
Oui, c'est très important et ça tient compte du partage des revenus. C'est-à-dire que les équipes les plus riches, quand tu leur fais mal, là, vraiment mal, comme la COVID fait mal aux Canadiens de Montréal, aux Leafs, même si on dit là, dans notre langage bien de chez nous, là, coloré, ils ont les reins solides. Là. Ouais, mais... Il reste une chose, c'est que ce sont les plus grands contributeurs au niveau de la répartition de la richesse de la Ligue.
Ben, ils maintiennent, ils maintiennent le dernier tiers en vie, Danny.
Oui, si t'appauvris les riches, ceux qui sont en bas, là, qui sont pas capables de fonctionner sans les équipes les plus riches, ben le modèle d'affaires de la Ligue nationale est éprouvé de façon drastique, là. Et ça, ben écoute, tu peux pas. Il y a personne qui pouvait envisager une situation comme celle-là. Et aujourd'hui, ben on est coincé. On est coincé dans tout ça. Et là, ce qu'on essaie évidemment, c'est de passer à travers cette période et essayer, comme on le dit souvent, de survivre la COVID.
Et Danny, ceux qui auront probablement les plus gros sacrifices à faire pour passer à travers cette période difficile, reprendre les activités et faire du placement pour les années qui suivront, ce sont les joueurs. Dans les industries régulières, ce sont les travailleurs. Ben, dans la Ligue nationale, les travailleurs, ce sont les joueurs. On va tenter de voir avec Antoine Roussel dans quelques instants à prolongation quel genre de sacrifice les joueurs s'attendent à faire, qu'est-ce qu'ils voudront faire, qu'est-ce qu'ils ne voudront pas faire et jusqu'à quel point le retour du hockey était peut-être un peu dans leurs mains. On va en parler, bien sûr. Prolongation se poursuit dans un instant. Antoine Roussel des Canucks de Vancouver sera avec nous.
Vous écoutez Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à l'émission Prolongation à venir. Stéphane Leroux nous parlera de la bulle de la Ligue junior majeure du Québec qui se rendra en branle à Québec le 17 novembre prochain. On aura les détails, bien sûr. Les propos de Stéphane Waite, le Canadien pense vraiment obtenir et avoir sous la main l'un des meilleurs duos de gardiens de but pour la prochaine saison. En attendant, Danny, ça nous fait grand plaisir puisque il a gentiment accepté notre invitation aujourd'hui. Il porte les couleurs des Canucks de Vancouver. Il a porté également fièrement le chandail des Stars de Dallas. Il est aussi acériculteur à ses heures. J'ai nommé Antoine Roussel. Bonjour Antoine, merci de participer à notre émission.
Salut Antoine.
Bonjour messieurs, ça me fait excessivement plaisir de vous parler.
Antoine, bien évidemment, ce qui retient notre attention, c'est le processus qui est commencé entre les propriétaires de la Ligue nationale et les joueurs, dont tu fais partie, bien sûr, le groupe de joueurs. Tu as activement participé au travail avec l'Association des joueurs pour représenter les Canucks il y a quelques mois. Là, tu as passé les pouvoirs à quelqu'un d'autre. Quand tu entends la possibilité d'un retour au jeu au 1er janvier, avec tout ce que ça comporte, est-ce que dans la tête d'Antoine Roussel, qui a déjà travaillé à l'Association des joueurs, il est capable de se faire une idée, puis surtout, il est capable de se dire « c'est possible ou c'est pas possible ».
Ben, pour répondre à ta question, c'est sûr que après avoir passé plusieurs mois à travailler là-dedans, moi il me fallait premièrement prendre un petit break par rapport à ça. Je trouvais que c'était beaucoup d'heures puis beaucoup de discussions qui des fois ça mène pas à grand chose, puis c'est plus vers la fin que ça se règle. Pour la deuxième partie de ta question, c'est sûr que moi j'entrevois ça vraiment d'une bonne façon. Je trouve que c'est excitant là, de se dire qu'on va rejouer au hockey cette année. Puis je parle avec beaucoup de monde ici au Saguenay, puis ils ont hâte de voir du hockey. Les gens sont sont tannés de la monotonie, des rapports COVID, de la LCN, de tout ce tralala. Ils ont besoin du sport pour se divertir. Puis le hockey, ça en fait partie. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais donc, c'est excitant. En tant que joueur, moi, je suis excité aussi de me dire qu'on va rejouer bientôt parce que, comme vous, on parlait au début, la sériculture, c'est le fun. Mais ce que je préfère faire, là, c'est vraiment jouer au hockey. Là, c'est complètement différent. Jouer sur la glace avec le monde qui crie dans les estrades, c'est quelque chose. Donc, pour le 1er janvier, je trouve ça un petit peu rapide, puis peut-être même ça me surprendrait que ça fonctionne pour le 1er janvier, mais pour un départ mi-janvier, je pense que c'est un petit peu plus réaliste.
Il y a quand même une logistique importante, là, parce que si on voulait absolument laisser tomber la rondelle au 1er janvier, Antoine, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais l'espèce de 2 semaines de camp d'entraînement, là, vous en aviez parlé un petit peu dans la négociation que vous avez eue cet été avec les propriétaires, mais c'est quand même très court, là. Camp d'entraînement le 15 décembre, toi, t'es au Saguenay, t'as pas besoin de traverser de frontières, tu t'en vas à Vancouver, t'es opérationnel, comme on dit, mais c'est pas le cas pour les joueurs européens, et c'est pas le cas non plus pour les joueurs américains qui s'en viennent au Canada pour jouer pour des équipes canadiennes. C'est ça qui est ambitieux, peut-être, de ramener tout le monde à la job pour le 15 décembre?
Ben, je pense qu'il y a deux facettes à ça, vraiment. Comme tu dis, moi, dans ma chance, moi, j'habite au Canada, puis je suis capable d'aller à Vancouver puis de m'entraîner tout de suite. Donc, dans un premier temps, le 2 semaines qu'il faut arriver avant, ben, c'est les gars qui sont en quarantaine, puis ça peut être compliqué. Nous, je sais que les Canucks nous avaient demandé d'arriver 2 semaines pour les joueurs étrangers, d'arriver 2 semaines avant le début du camp d'entraînement de l'été dernier. Fait que les gars, avant le début de la bulle, ils étaient partis de chez eux, ça faisait au moins 5 à 6 semaines. Donc, ça fait beaucoup de temps. Puis moi, cet été, je suis parti à peu près 60 jours. Donc, c'est sûr que le 2 semaines est vraiment un petit peu talent de quarantaine avant. Mais c'est sûr que ça prend un camp d'entraînement aussi, puis se remettre en forme. Nous, on l'a vu, c'était plate un petit peu d'arriver en avance, puis d'être loin de notre famille. Mais on a eu du succès. Les gars étaient prêts quand la rondelle est tombée pour le premier match contre le Minnesota. Mais on était prêts, on a été capable de rallier les victoires puis d'être bons tout de suite. Donc, ça prend quand même un certain temps pour se remettre la machine en marche. Puis ça fait, il y a des joueurs, ça fait excessivement longtemps qu'ils n'ont pas joué non plus. Donc,
c'est
2 semaines, c'est peut-être un peu ambitieux, là. Par exemple, je pense aux Red Wings, puis mon ami Jonathan Bernier, ça fait un bout qu'il n'a pas joué, là, depuis le mois de mars. Donc, c'est le fun de se remettre dans le beat aussi rapidement, mais aussi, faut être réaliste, là, que on a des Formule 1, ben, ça leur prend quand même des pas mal d'essais libres avant de partir sur le Canada.
Faut que ça fasse des tours de piste, Danny.
Écoute, exact. Ouais, mais est-ce que ça, c'est au cœur des préoccupations, le fait, je comprends, tu sais, la notion d'argent, c'est sûr qu'à un moment donné, ça précipite des décisions, ça force des décisions dans certains cas, mais là, la sécurité des joueurs, tu sais, comme tu le mentionnais, vous allez jouer presque 4 matchs par semaine de façon presque régulière pendant tout le, tu sais, à partir du moment où...
Danny, ça va être excessivement difficile. Moi, je l'ai déjà vécu plus ou moins dans la saison des Olympiques où c'était excessivement condensé. Puis ça favorise les jeunes joueurs. Moi, c'est officiel. Là, je l'ai vu. On avait des vétérans qui étaient vraiment des bons joueurs, mais veux pas. Ben, quand t'as pas 20 ans, c'est un petit peu plus difficile. Fait que ça favorise les jeunes joueurs. Mais il y a un autre aspect que j'ai pas mentionné dans ta dernière question aussi. C'est Noël. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi.
Ouais.
Tant qu'à commencer le premier puis faire des tests physiques le 24 décembre, là, c'est plate, là, mais Noël, c'est une fois par année. Donc, je pense aussi qu'il y a cet aspect-là,
ah,
que si on le repoussait d'une ou deux semaines, ben ça donnerait plus la chance aux gars de repartir sur de bonnes bases puis d'arriver motivé aussi. Là, c'est sûr que même si on n'est pas là souvent à la maison, là, en ce moment, on l'est, mais quand ça va partir, cette situation-là, on va peut-être, nos enfants ne les verra pas beaucoup. Hein.
Antoine, il y a un aspect financier qui est très important là-dedans, puis malheureusement, quand une industrie, que soit l'industrie, là, quand une industrie souffre, c'est souvent à ses employés qu'on demande certains sacrifices. Vous en avez déjà fait lors de la dernière négociation. Je veux pas perdre les gens, là, mais avec la dernière négociation, le report de 10% qui a déjà été négocié pour la prochaine, là, ça veut dire que vous partez à peu près à 70% de votre revenu pour jouer cette prochaine saison écourtée. Premièrement, est-ce que c'est logique de penser ça? Et deuxièmement, est-ce que vous sentez qu'on va vous demander de faire plus de concessions pour rendre ça possible encore?
Ben, je pense, tout ça, on s'en fait, je trouve, on a fait des belles concessions cet été. Puis, ça a travaillé ensemble. C'était le fun de voir une nationale qui travaille avec les joueurs, puis on est arrivé avec une bonne solution. Maintenant, si on nous arrive en demandant d'autres aspects, c'est sûr que nous, on peut pas accepter ça. On a négocié en bonne et due forme, avec une bonne tête sur les épaules, en se disant qu'on prend des sacrifices pour cet été, on y va à Edmonton, et puis à ce moment-là, on sait que la saison partira pas l'année prochaine, qu'elle va être écourtée, qu'il y aura les Olympiques l'année prochaine. Donc on le savait, donc la Ligue nationale et les joueurs savaient dans quoi ils s'embarquaient. Donc c'est sûr que moi je m'attends pas à ce qu'il y ait d'autres demandes de baisse de salaire à ce niveau-là. Puis je trouve que on en a fait notre pas. Et puis c'est écrit noir sur blanc aussi dans la nouvelle convention. Donc il n'y a rien vraiment qui a changé dans l'aspect COVID qui pourrait changer l'incertitude qu'il y avait avant de signer nos papiers cet été, là.
Et Antoine parlait de bon, une année normale, les revenus, ce qui est sur la table à partager, c'est autour de 5 milliards. Là, cette année, bon, on dit possiblement autour d'un milliard. Donc, comment ça va fonctionner, la répartition de tout ça? Comment vous allez gérer tout ça avec les propriétaires? Parce que là, bon, vous avez un plafond qui est garanti, mais comment ça va bouger dans le temps? Parce qu'il y a plein d'incertitudes encore, là.
Absolument. Puis nous, cette année, ben, faut mettre les choses en perspective. On parle beaucoup d'argent. Les joueurs sont, on est choyés, puis on fait pas pitié. Là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent d'arrache-pied du lundi au vendredi, qui font 60 heures semaine, puis qui ont de la misère à joindre les deux bouts en ce moment. Donc, tu sais, je pense aussi à ces jeux-là, à ces gens-là quand je parle. Mais ceci étant dit, quand on parle de notre situation, puis tout ça, ben, c'est sûr que on l'avait prévu dans les négociations cet été, que cette année on perdait 20% de notre salaire. L'année prochaine aussi. Puis l'année d'après, ça pouvait être maximum 18%. Puis après ça, ce serait un maximum de 6%. Donc la Ligue nationale, d'ici 2 ans, devrait renégocier le droit TV aux États-Unis. Puis on est vraiment des camps que la Ligue nationale à ce niveau-là, parce qu'on a signé vraiment un deal à long terme aux États-Unis avec NBC qui rapporte beaucoup d'argent, mais toute proportion gardée, c'est 200 millions, puis le basket, c'est dans les milliards, je sais pas le chiffre exactement, mais c'est peut-être 2 ou 3 milliards par année de droits TV. Donc, on n'est pas dans la même game. Donc, quand ce nouveau deal qui arrive à échéance, je pense, dans 2 ans, va arriver, ben, les pertes qui se sont accumulées, qui auront roulé d'année en année, et puis pour garantir qu'on perde seulement un certain pourcentage de notre salaire, à ce moment-là, vont être absorbés par cette nouvelle arrivée d'argent frais.
Okay. Mm-hmm. Antoine, entre vous, là, quand vous parlez entre joueurs, j'aimerais ça que tu m'amènes dans une conversation peut-être un peu privée. Dans le dernier marché des joueurs autonomes, là, il y a 50% moins d'argent qui a été donné aux gars qui ont signé des contrats. Il y en a qui ont même pas signé au moment où on se parle. Avez-vous le sentiment que votre business est en danger?
Non, vraiment pas. C'est pas le sentiment que je ressens. Je sais, ben, j'ai l'impression que les joueurs plus vieux sont en danger. Parce que, je pense que les joueurs qui étaient plus vieux avant étaient déjà en danger. Maintenant, ça s'est accentué. Je pense que pendant les deux prochaines années, ça va être difficile de voir d'être en renégociation de contrat parce qu'il y aura des choix difficiles pour certaines équipes à faire. Et puis, ça va favoriser des contrats à la baisse. Puis aussi, ça va favoriser surtout des jeunes joueurs qui arrivent puis qui ont tout approuvé puis qui demandent beaucoup moins de salaire. Donc, je pense que il va y avoir une rotation à ce moment-là de personnel qui va se rajeunir. Je pense que c'est ça qui m'inquiète le plus. versus que la business en tant que telle soit en danger.
Antoine, il semblerait qu'il y ait des équipes qui actuellement, dans le contexte actuel, veulent pas vraiment reprendre des activités du fait qu'ils sont justement en difficulté financière, puis que pour eux, là, le scénario qui est sur la table de jouer avec très peu de partisans ou aucun partisan, ça tient pas la route par rapport à leur réalité financière.
Ah, puis ben ça, c'est sûr, c'est plate. Moi, ça me fait toujours mal au cœur d'entendre ça, c'est sûr. Maintenant, peut-être qu'il y a des marchés qui sont défavorisés, puis ça va profiter à d'autres marchés, par exemple Québec. Est-ce que Québec pourrait ramasser une équipe qui est en danger en ce moment, puis qui n'est pas capable de payer? Est-ce que Québécois pourrait faire ce move-là? Est-ce que une équipe pourrait se transférer à Houston, où il y a un gros marché, puis un gros bassin de population qui peut soutenir une équipe aussi? Donc,
c'est possible.
Les trésors amènent des opportunités, je pense, vraiment.
Et c'est possible.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais renchérir sur Danny. Antoine, vous semblez, les joueurs en tout cas, avoir confiance qu'il va y avoir d'autres villes pour être capable de sauver le bateau?
Ben, ça, c'est sûr. Je pense que vous en parlez souvent aussi en onde, des villes potentielles où il pourrait avoir des équipes. Je pense qu'il y en a deux, trois où ça pourrait être intéressant. Puis peut-être que ça va favoriser ce mouvement-là.
Antoine, évidemment, vous avez été assez clair, les joueurs. Une bulle de 60 jours, il n'y en aura pas. Puis je pense que les propriétaires, là, avec la facture, on dit que c'est une facture là, qui joue entre 75 et 95 millions. Les bulles de Toronto et Edmonton ont coûté. Ils n'ont pas l'air à vouloir aller là. Il y a quand même une coupe d'affaires. On parle beaucoup de la division canadienne. Tu t'es prononcé là-dessus. On parle aussi peut-être là de faire en sorte que quand les équipes se déplacent, à titre d'exemple, quand les Canucks vont venir jouer à Montréal, ça pourrait être pour une série qui ressemble au baseball, là, c'est-à-dire trois matchs en quelque chose comme cinq soirs. Est-ce que tu penses que ça, c'est viable? Est-ce que tu penses que c'est une façon, en quelque sorte, de vous faire jouer, de pas vous mettre dans une grande bulle et de vous protéger contre la COVID en même temps?
Absolument. Je pense que c'est une excellente solution. Ça fait beaucoup de sens. Puis là, c'est sûr que tu m'aguiches un peu en me disant passer plus qu'une journée et demie à Montréal, passer cinq jours, ça serait fantastique. Je pourrais voir ma famille, puis ça pourrait être vraiment excitant. Donc tu viens de me vendre le rêve, là, si je comprends bien.
Mais la division canadienne, là, nous autres, on est tous bien emballés.
Antoine?
Ouais, est-ce que tu as parlé à des joueurs? Oui, parce que honnêtement, Danny et moi, cinq jours à Vancouver, on va les
pas
prendre.
Pas de problème.
Mais Antoine, est-ce que tu as eu le même feedback par rapport à cette histoire de division canadienne? Est-ce qu'il y a un certain engouement derrière ça, entre autres là, chez les gars des Canucks?
Ben, je pense que oui, un petit peu. Les gars, ils sont curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait avoir, quelle dynamique aussi ça pourrait avoir. Ouais. Peut-être sur le long terme, on ne sait jamais. Peut-être la Ligue va s'apercevoir que c'est vraiment le fun, puis que ça devrait être tout le temps comme ça. Donc ça amène des opportunités, comme je le disais, cette crise-là. Puis on n'aurait jamais essayé ça si c'était pas de la crise. Puis on va avoir une réponse à savoir si les fans vont aimer ça aussi. Mais c'est le fun, tu sais, les gens les partisans du Canadien, ils voient pas beaucoup Quinn Hughes puis Elias Pettersson, parce que c'est tard là où les heures où on joue. Là, ils vont les voir plus régulièrement. Ça va amener de l'exposition à ces jeunes joueurs-là. Je pense que Quinn Hughes puis Elias Pettersson devraient être excessivement excités de dire qu'ils vont souvent jouer dans l'Est, puis leur marque de commerce va grossir aussi. Donc, pour des superstars de l'Ouest, c'est bon pour eux. Puis à la place de voir Austin Matthews qui fait toutes les annonces, ben ça sera peut-être Elias Pettersson puis Quinn Hughes. Fait que là, ça peut être intéressant de ce niveau-là, de leur point de vue. Là.
En terminant, Antoine, le temps file un peu, mais je vais absolument te poser cette question-là avant de te laisser aller sur ton quatre roues, là. Mais dans tout ce qu'on entend comme scénario,
il
là, la
pas,
division...
Martin, il d'être gentil, il livre pas. On n'aura pas le sirop d'érable.
Non, mais je m'essaye pareil, Danny. On va finir par en avoir une canne de sirop d'érable. Antoine, on n'entend pas la possibilité pour la prochaine année, à tout le moins, parce qu'on a besoin de revenus pour soutenir la business, puis les revenus et tout ça. On n'entend pas la possibilité de ramener la ronde de qualification, puis de faire un format comme on a vu cet été, de 24 équipes en série. Es-tu surpris qu'on n'entende pas cette option-là, vu la situation économique?
Ben, en fait, je pense que vraiment ce qui limite et menote la Ligue, c'est vraiment les Jeux olympiques. Mm-hmm. Parce que si il n'y avait pas les Jeux olympiques, je pense que c'est sûr qu'on jouerait 82 matchs. Qu'on ferait encore la ronde qualificative que j'ai trouvé excessivement excitante, puis c'était super le fun à jouer. Et pour les fans, je trouve que c'est le fun. Ça amène plus de matchs qui ont une saveur de playoffs. C'est des playoffs. Puis avec de l'engouement, c'est plus cool de cet aspect-là. Puis vraiment, c'est pour cette raison-là qu'on n'entend pas parler vraiment de cette ronde de qualification, selon moi.
Antoine, merci beaucoup de ta grande générosité. C'est toujours très, très apprécié. Puis on espère te voir avec des patins puis avec l'uniforme des Canucks au cours des prochaines semaines.
Une semaine à Montréal.
Merci beaucoup. peut-être même pouvoir venir en studio.
Super. Ça va nous faire grand plaisir. Merci. Antoine Roussel était notre invité.
Au revoir. Bye.
On s'arrête pour quelques instants. Nous serons de retour dans un moment à prolongation.
Vous écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à venir dans quelques instants les propos de Stéphane Wade qui croit bien avoir entre les mains le meilleur duo de gardiens de la Ligue nationale pour la prochaine année ou l'un des meilleurs certainement. On va développer de tout ça avec Danny. Danny, cette possibilité selon le New York Times de voir 3 à 5 équipes dans des difficultés financières sérieuses au point de déclarer faillite si on devait être obligé de jouer le 1er janvier, c'est une nouvelle qui frappe un peu l'imaginaire. Alors visiblement, il y a des équipes qui sont beaucoup plus en difficulté que ne laisse croire la Ligue nationale.
Tu sais, la Ligue nationale, Martin, veut pas de transfert. On l'a toujours dit, s'il y a des équipes qui sont en difficulté, on va essayer de trouver de nouveaux propriétaires, mais des propriétaires qui vont garder l'équipe au même endroit.
Comme en Caroline,
exactement. Les situations comme Winnipeg, là, on en a pas eu beaucoup, là. Et d'ailleurs, ce qui est un peu intriguant, c'est que cette situation de Winnipeg, le transfert d'Atlanta à Winnipeg, c'est arrivé parce que justement, on a déposé le bilan. On a donné une clé à la Ligue, mais on a dit c'est terminé.
On n'en veut plus de cette équipe-là.
On n'opère plus. Voilà. Alors on n'a pas eu le choix là, d'aller vers une option 2, hein, une espèce
et
de...
Penses-tu qu'on est là, Danny? Ben, si on joue le 1er janvier, là...
Exactement, là, je suis en train de me demander...
C'est le New York Times qui annonce, pas une feuille de chou, là.
Non, exactement. Alors, est-ce qu'on parle de Houston? Parce que, bon, c'est avantageusement considéré par la Ligue nationale.
Ils sont prêts, Danny, à Houston.
Ils sont prêts, tout à fait.
Tout ce qu'il faut. Même chose pour Québec.
Tout à coup, pourrait bénéficier d'un préjugé favorable parce que, par exemple, Ottawa, qui est une équipe qu'on sait, toutes sortes de difficultés financières, ne serait pas en mesure de subir les contre-coups de la COVID parce que, évidemment, là, jouer dans des amphithéâtres qui sont vides, de travailler dans un contexte où tu n'as presque pas de transfert d'argent parce que les coûts, c'est bien beau partager les revenus, mais quand t'en as pas de revenus, écoute, c'est 5 milliards, on va tomber à 1 milliard. À un moment donné,
et tu l'as mentionné en ouverture d'émission, Danny, les riches vont être un peu moins riches, donc vont peut-être moins aider les pauvres.
C'est en plein ça. Donc, lorsque les riches dans un contexte dans lequel je parle, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on dit. Faut pas que les gens déforment ce qu'on dit. On parle d'équipe de sport dans un contexte où il y a un partage des revenus.
Dans un marché, c'est ça.
C'est un marché où les riches contribuent, le premier tiers contribue à sauvegarder la pérennité en aidant le dernier tiers. Donc là, si on n'est pas capable de maintenir cette formule-là, je te le dis, Martin, la situation est inquiétante, puis ça ouvre peut-être la porte à toutes sortes de spéculations, dont Houston, dont Québec.
Écoute, Danny, je pense que c'est encore dans les mains des joueurs et c'est là que ça va se passer. On verra bien. Les prochains jours nous donnent des réponses, certainement. Au retour, les nouvelles et un petit tour du côté du Canadien avec Danny à prolongation. Restez là.